Vous écoutez, on lit pour vous.
Une autre histoire d'enfants et d'écran. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 22 mars 2024 dans La Presse. J'ai reçu un déluge de témoignages dans la foulée de ma chronique du dimanche 17 mars 2024 sur le mur d'études scientifiques qui montre que grandir dans les écrans, c'est loin d'être sain. Je faisais écho à un article formidable du magazine The Atlantic où Jonathan Haidt a dévoilé un aperçu de son livre sur le recalibrage des cerveaux des jeunes qui n'ont pas connu l'enfance sans l'Internet mobile. Études et statistiques à l'appui, Haidt montre qu'à la fin des années 2000 et au début des années 2010, quand le téléphone intelligent a pris son envol, y compris dans la vie des mineurs, on a accéléré des changements radicaux dans la façon dont se vit l'enfance. Plus d'études seront nécessaires. Mais chez les jeunes, des troubles de l'anxiété à l'automutilation, en passant par les suicides, tous ces indicateurs sont partis à la hausse aux États-Unis et ailleurs, avec l'omniprésence des écrans. Ce qui inquiète des experts, c'est que le temps passé en ligne a mené à une réduction du temps passé dans le réel, face à face, qui a grandement diminué chez les jeunes. Or, depuis toujours, le réel donne aux petits humains des outils qui guident leur développement et leur bien-être. Couper ce temps passé en 3D avec d'autres humains et vous jouez avec des circuits neuronaux façonnés par des milliers d'années d'évolution. Je cite Jonathan Haidt sur la façon dont les écrans et les réseaux sociaux se sont enracinés dans la vie des enfants occidentaux il y a environ 15 ans. Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. Véronique est enseignante dans la grande région de Montréal. Elle m'a demandé l'anonymat pour parler librement et ne pas attirer l'attention sur sa classe. Récemment, elle a dû intervenir auprès des parents pour leur demander de réfléchir à l'impact de TikTok et Snapchat dans la vie de leurs enfants et de sa classe. L'enseignante a raconté aux parents comment le virtuel débordait dans sa classe. Elle leur a dit que, sur ces plateformes, des photos circulent, des insultes, des commentaires cinglants. Derrière leur écran, a expliqué Véronique aux parents, les enfants ne réfléchissent pas. Ils disent des choses qu'ils ne diraient pas en 3D. Toutes ces frustrations virtuelles déboulent à l'école, où des chicanes éclatent dans le réel. « Ça nuit à l'estime des enfants », m'a dit l'enseignante. « Certains sont très blessés. Il y a des commentaires sur leur apparence, des menaces, des insultes. » Une histoire de photos sur TikTok a créé une sorte de crise parmi les élèves de sa classe. Certains ont passé une heure dans le bureau de la technicienne en éducation spécialisée pour parlementer et démêler la chicane créée dans le numérique qui s'est poursuivie à l'école. La prof. Leur groupe TikTok est un espace où se disent des commentaires irrespectueux. Ils ont, entre les mains, un outil qui dépasse leur capacité de jugement. Les enfants sont impulsifs de nature. Ils se retrouvent à avoir envoyé des messages sans réfléchir, des messages dont ils n'estiment pas la portée. J'ai oublié un détail. On parle ici d'élèves de 5e année, donc 10-11 ans. La communication de Véronique avec les parents a porté ses fruits. Une discussion s'est ouverte. Des parents ont témoigné de l'impact des écrans et des univers virtuels sur l'humeur de leurs enfants. Un parent a raconté avoir perçu un vague alarme chez son enfant depuis qu'il lui avait permis d'aller sur TikTok pour faire partie de la vie virtuelle de ses camarades de classe. D'enfant heureux, il était devenu triste. Le parent a donc ouvert le compte de son enfant pour voir ce qui s'y passait. Et il y a fait des découvertes effrayantes. Langage vulgaire, propos dégradants. Des enfants que ce parent connaissait, très respectueux dans la vraie vie, disaient des choses qu'il n'aurait jamais dites en personne, face à face. Le parent a décidé de fermer le compte TikTok de son enfant. Résultat, il a confié à Véronique avoir retrouvé son enfant d'avant les réseaux sociaux. Un autre parent a également coupé le TikTok de son enfant, qui était devenu angoissé à cause de ce qu'il vivait dans le virtuel. Aujourd'hui, dit Véronique, cet enfant va mieux. Au Québec, l'âge légal pour utiliser TikTok est de 14 ans. C'est 13 ans pour Snapchat. Plusieurs parents m'ont écrit pour me parler de l'impact des réseaux sociaux sur leurs enfants, sur leurs adolescents. Nous sommes au début d'un mouvement d'éveil aux effets sur l'humeur et le développement émotionnel et social des jeunes pour qui les écrans et les réseaux sociaux ont toujours fait partie de leur vie. Au printemps 2023, le directeur du service de santé publique des États-Unis, Surgeon General, a publié une mise en garde portant sur l'effet des écrans sur les jeunes cerveaux. Citant les taux grandissants de dépression et d'anxiété chez les adolescents, Vivek H. Murthy a eu ces mots. Il n'est plus possible d'ignorer la contribution potentielle des réseaux sociaux à la douleur ressentie par des millions d'enfants et leurs familles. Le directeur du service de santé publique des États-Unis note que 40 % des Américains de 8 à 12 ans utilisent malgré tout les réseaux sociaux, bien que l'âge minimum pour s'inscrire soit généralement de 13 ans. Pour M. Murthy, l'âge minimum de 13 ans pour pouvoir s'inscrire à un réseau social est beaucoup trop bas. C'était une autre histoire d'enfant et d'écran. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 22 mars 2024 dans La Presse.
Les sept qualités d'un entrepreneur. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 28 octobre 2023 dans La Presse. La femme d'affaires Marie-Lou est connue pour trois fois par jour, ses recettes et ses chansons. Directrice invitée de la section Affaires, elle a confié à nos journalistes et chroniqueurs la mission de répondre à ses interrogations d'entrepreneurs. Le mot de Marie-Lou. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais dans un état créatif et très émotionnel. Ma passion et ma mission étaient plus fortes que tout le reste. Une croissance rapide m'aura forcé à développer des qualités complémentaires à celles que j'avais instinctivement, mais reste que je reviens toujours à la grande influence qu'a ma santé émotionnelle sur mes décisions d'affaires et sur ma manière de gérer les choses. Est-ce que j'ai raison de croire que de développer nos qualités humaines est primordial en affaires? En affaires, on a beau être diplômé d'une prestigieuse école de commerce ou de management, certains traits de caractère, qui vont au-delà du pur potentiel intellectuel, distinguent les meilleurs entrepreneurs, qui les possèdent en tout ou en partie. L'intelligence créative. On appelle ça une posture créative, précise d'emblée Hélène Godin, cofondatrice de La Factory, un centre de formation qui place les sciences de la créativité au cœur de l'enseignement. Ça ne se limite pas juste à un état d'esprit, dit-elle. C'est une capacité de penser autrement et de faire autrement. Cette intelligence créative englobe plusieurs compétences de savoir-faire et de savoir-être, comme celle de s'adapter, de bien communiquer, d'avoir des capacités de résolution de problèmes, d'avoir un esprit critique et d'être capable de bien collaborer. Selon Hélène Godin, les meilleurs gestionnaires, qu'ils soient entrepreneurs ou employés, ont développé cette intelligence créative qui leur permet de mieux gérer l'inconnu et leur donne la capacité d'imaginer des solutions nouvelles, inattendues et pertinentes. L'intelligence émotionnelle. On la connaît tous maintenant, tellement qu'on la désigne parfois par ses petits noms, IE ou même QE, pour quotient émotionnel. Pour l'entrepreneur, l'intelligence émotionnelle, c'est majeur. Ça l'est pour n'importe qui fait des choses hors de l'ordinaire, dit Louis-Jacques Filion, professeur émérite au département d'entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal. Le professeur explique que dans le cas des entrepreneurs, cette capacité de bien percevoir ses émotions peut carrément être un moteur qui sera à l'origine du projet d'affaires. Parce qu'ils ont été en contact avec l'identification d'un besoin autour d'eux, explique-t-il, et c'est venu toucher des cordes émotives, donc l'intelligence émotionnelle. Le leadership. On pourrait dire qu'il s'agit de charisme, dans le sens positif du terme. Les leaders doivent avoir un souci constant de mobiliser et d'aller chercher l'engagement de leurs troupes, dit la coach Nathalie Blain, qui estime qu'il s'agit d'une qualité que doivent indéniablement posséder les entrepreneurs. Tout ce qui est savoir-être favorise le leadership, ajoute la cofondatrice de l'école La Factory, Hélène Godin. Il faut être capable de diriger une équipe contre vents et marées, dit Mme Godin, précisant que les entrepreneurs sont habitués à la tempête. Un leader créatif, poursuit-elle, va avoir aussi la capacité de communiquer, de donner des rétroactions qui vont faire grandir les gens et les idées dans l'entreprise. La force d'attraction. Et non seulement doivent-ils être inspirants, mais les entrepreneurs doivent également savoir bien s'entourer de personnalités complémentaires, ajoute Nathalie Blain, qui travaille avec des dirigeants d'entreprise pour les aider à acquérir ce type d'habileté. Aujourd'hui, 80% des entreprises sont créées par des équipes, dit Louis-Jacques Filion de HEC Montréal, qui estime que les entrepreneurs, par leur parcours, acquièrent souvent ces compétences douces avant même d'approfondir une intelligence analytique. On est dans la cour de l'intelligence créative, imaginative et émotionnelle que les entrepreneurs développent de manière plus naturelle que la moyenne des gens, explique le professeur Filion. Les entrepreneurs, poursuit-il, savent s'entourer de personnes qui ont des compétences distinctives des leurs, en marketing, en finance, en technologie et autres. L'intelligence systémique. C'est cette vision globale, ce pas de recul pas toujours facile à faire, mais qui permet de voir la forêt et pas seulement l'arbre. C'est la capacité à se donner des fils conducteurs, explique Louis-Jacques Filion du département d'entrepreneuriat et innovation de HEC Montréal. C'est autour de ces fils conducteurs, en définissant une réponse à un besoin, que les entrepreneurs trouvent des motivations très profondes pour réussir. Selon lui, cette faculté leur donne une vision de ce qu'ils veulent atteindre et de la place à prendre dans le marché. La ténacité. Une grande étude de la Banque de développement du Canada, BDC, sur l'entrepreneuriat, dont les résultats ont été dévoilés plus tôt ce mois-ci, établissait différentes compétences essentielles pour les entrepreneurs. Une se distinguait en étant nécessaire à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, la ténacité. Beaucoup d'entrepreneurs ont eu leur grand succès après un bel échec, rappelle le professeur Louis-Jacques Filion, qui estime que souvent leur détermination fait qu'ils mènent un projet jusqu'au bout. L'intuition. Un entrepreneur aujourd'hui doit avoir de l'intuition et la capacité de lire l'environnement, parce que l'environnement change rapidement, soutient la coach Nathalie Blain. Regardons seulement l'horizon des planifications stratégiques, donne-t-elle en exemple. Avant, on les faisait sur 5 ans. Maintenant, on parle de planification stratégique sur 3 ans, maximum. L'entrepreneur doit donc être souple et en contact avec cette petite voix intérieure qui peut le guider. On en a tous de l'intuition, dit Nathalie Blain, mais parfois on tait cette partie intuitive pour laisser la place au rationnel, parce qu'on a peur. C'était « Les sept qualités d'un entrepreneur », un texte de Stéphanie Bérubé paru le 28 octobre 2023 dans la presse.
Idées reçues, nos conseils pour retrouver le sommeil, un texte de Yuki Furukawa, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir. L'horloge affiche 3h47 du matin. Après une énième nuit sans sommeil, tous vos espoirs reposent sur Google. Au milieu de la nuit, le nez sur l'écran bleu, vous tapez « Insomnie, que faire ?» dans un moment de détresse. Les conseils en tout genre se bousculent. Ici, une application contre le stress, là, une publicité pour un nouveau matelas. Peut-être que c'est juste parce que tu cogites trop. Tu as essayé de te faire une infusion avant de dormir ? Demandent vos amis. Si ces suggestions semblent bien intentionnées, elles ne font partie ni des recommandations de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, INSV, ni des méthodes évaluées dans des travaux scientifiques solides. Pour savoir ce qui fonctionne vraiment ou pas, une équipe de l'Université de Tokyo, Japon, a passé en revue 241 études sur l'insomnie, englobant plus de 30 000 adultes. Les résultats ont été publiés en janvier. Science et Avenir fait le point sur ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas pour retrouver des cycles de sommeil réguliers. Il faut dormir 8 heures pour être en forme. Faux. La science s'accorde à dire qu'un adulte a, en moyenne, besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. D'où ce chiffre de 8 heures que nombre d'entre nous avons en tête. En réalité, tout le monde n'a pas les mêmes besoins selon son âge, son activité ou même son patrimoine génétique. De nombreux patients ont cette pensée automatique, mais elle est fausse. En particulier pour les personnes âgées, qui ne sont plus capables de dormir autant, explique Yuki Furukawa, auteur de la méta-analyse parue dans JAMA Psychiatry et spécialisé en neuropsychiatrie à l'hôpital universitaire de Tokyo. La faute à une baisse de la réponse à la mélatonine, une hormone liée à l'endormissement. Les seniors éprouvent une diminution de la quantité et de la qualité du sommeil. Certains se sentent en pleine forme au milieu de la nuit. D'autres ont des phases décalées et s'endorment vers 20 heures pour se réveiller à 4 heures du matin, complète le Dr Pierre Arquillière, somnologue et psychiatre au Centre du sommeil d'Aubagne, Bouches-du-Rhône. Certains gènes portent également des mutations entraînant des besoins en sommeil très réduits, de 4 à 6 heures par nuit. Cela ne sert à rien de vouloir rattraper le sommeil. Vrai. Après une mauvaise nuit, inutile de vouloir compenser par des siestes dans la journée ou le week-end qui suit. Il faut relativiser cette dette de sommeil. On continue de se lever à l'heure normale pour ne pas accumuler de décalage le matin. Et le soir, on évite les activités qui maintiennent éveillé, conseille Pierre Arquillière. Plusieurs pratiques ont fait leurs preuves pour retrouver son rythme de sommeil, comme limiter le temps passé au lit. L'idéal est d'y rester le temps d'une bonne nuit, plus 30 minutes. Pour une personne qui a besoin de 7 heures de sommeil, cela correspond donc à 7 heures et 30 minutes dans le lit, peu importe le temps d'éveil et de sommeil. Les heures de coucher et de lever doivent être fixes. Enfin, le lit et a fortiori la chambre doivent être dédiés exclusivement au sommeil et aux relations intimes. Ces mesures permettent de recalibrer la survenue du sommeil pour arriver progressivement aux 7 heures désirées. Se relaxer permet de s'endormir plus vite. Faux! Écouter des sons de vent dans les arbres, pratiquer un exercice de respiration en contrôlant son souffle, suivre un exercice guidé sur une application. Les outils de relaxation pullulent sur Internet. Nombre d'insomniaques qui ont recours pour tenter de faire retomber la tension et favoriser un état compatible avec l'endormissement. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce réflexe est contre-productif. Les travaux de l'Université de Tokyo montrent qu'au contraire, les séances de relaxation tendent à retarder l'endormissement. La respiration abdominale ou la détente muscle après muscle ont une influence contre-productive. La relaxation entraîne un temps d'éveil plus long, précise Yuki Furukawa. Réussir à se relaxer devient finalement un objectif à atteindre. Au lieu d'avoir un moment de bien-être, les patients se mettent trop de pression. Pourquoi je ne dors pas? Je devrais dormir puisque j'ai fait ma séance de relaxation. Peut-être que j'ai mal fait l'exercice. Bon, il arrive ce sommeil, etc. De quoi se faire des nœuds au cerveau quand il faudrait tomber dans les bras de Morphée. On peut s'en sortir seul avec Google. Plutôt faux. Se coucher et se lever à heure fixe, préférer une activité calme et sans écran avant d'aller au lit. Les insomniaques ont beau savoir ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène de sommeil, cela n'améliore pas leur nuit. On suppose que les patients ont testé les recommandations officielles pour avoir une bonne nuit de sommeil, mais ils n'y sont pas parvenus. L'éducation au sommeil seule ne suffit vraisemblablement pas. Il faut qu'elle soit associée à d'autres méthodes qui fonctionnent, comme les thérapies comportementales et cognitives, commente Yuki Furukawa. Surtout, les interactions avec un thérapeute se sont montrées bien plus bénéfiques que les méthodes visant à se soigner tout seul sans l'aide d'un professionnel. Dans tous les cas, les encouragements de la part des proches semblent avoir un effet vertueux. Raison de plus pour ne pas rester dans son coin à ruminer son problème. Les insomniaques dormiront mal toute leur vie. Faux, et heureusement. Après plusieurs mois, voire années de mauvais sommeil, on serait tenté de se dire « je suis comme ça, je dors mal » ou « c'est trop tard pour s'en sortir ». Pour éviter de s'enfermer dans ces pensées négatives, les thérapies dites de la troisième vague ont fait leurs preuves. Ces méthodes consistent à accepter les pensées qui nous traversent sans y accorder trop d'importance. La méditation de pleine conscience a pour but d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Par exemple, être excédé par une énième nuit sans réussir à bien dormir. La thérapie d'acceptation et d'engagement, elle, a pour but d'accepter ses pensées tout en changeant son regard sur soi. Et décoller cette étiquette d'irrémédiable insomniaque qui vous colle à la peau. Vous écoutez « Idées reçues, nos conseils pour retrouver le sommeil », un texte de Yuki Furukawa, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir. Les écrans sont à bannir en soirée. Vrai, difficile de lâcher les écrans. Et pourtant, la partie de Scrabble en ligne, la rédaction d'un mail ou les vidéos regardées en soirée peuvent être délétères pour le sommeil. Limiter l'exposition à la lumière des écrans le soir ne suffit pas. Il faut aussi minimiser l'hyper-éveil ou le stress induit par la cyberconnexion avant de s'endormir. En bref, on instaure un couvre-feu digital au profit d'activités relaxantes, comme la lecture ou la musique. Et on met son téléphone en mode avion pour éviter tout réveil intempestif, préconise l'INSV. Les réseaux sociaux, jeux vidéo et mails renforcent l'éveil cérébral et retardent l'endormissement, selon une récente étude de l'Université d'État de Pennsylvanie, États-Unis. Le stress du travail, l'effet galvanisant des réseaux sociaux ou du jeu vidéo, ont un effet sur l'éveil. En soirée, mieux vaut se détendre avec des activités douces, au moins 30 minutes à 2 heures avant le coucher, conseille le professeur Russell Foster, neuroscientifique spécialisé dans le rythme circadien à l'Université d'Oxford, Royaume-Uni. Et si possible, dans une ambiance tamisée, afin de respecter le rythme circadien et favoriser l'arrivée de la somnolence lorsque la lumière du jour décline. Le café réveille et l'alcool aide à dormir. Vrai et faux. Quand le manque de sommeil se fait criant, la tentation de s'accrocher à son café comme à une bouée de sauvetage est forte. Mais cette habitude finit par avoir des effets contre-productifs, la caféine empêchant de s'endormir le soir venu. Les effets de la caféine peuvent durer jusqu'à 8 heures dans l'organisme. Une tasse de café en fin d'après-midi peut empêcher de s'endormir la nuit, préviennent les National Institutes of Health américains. Mieux vaut s'arrêter autour de 14 heures pour un coucher vers 22 heures. Quant au verre d'alcool censé aider à l'endormissement, il est préférable de ne pas déboucher la bouteille. Deux verres d'alcool pour un homme et un chez une femme font baisser la qualité du sommeil de 24 % selon une étude finlandaise de 2018. Dès le premier verre, une réduction de 9,3 % est constatée chez l'homme et la femme. Les insomniaques ont donc tout intérêt à surveiller ce qu'ils mettent dans leur verre. Même la cigarette en soirée serait à proscrire, selon de récents travaux. La nicotine, un stimulant, aggrave l'insomnie et réduit le temps de sommeil. C'était « Idées reçues, nos conseils pour retrouver le sommeil », un texte de Yuki Furukawa, paru le 21 mars 2024 dans « Science et Avenir ».